Mais qu'est-ce que ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Mesdames et messieurs, bonjour. Grand retour aujourd'hui pour l'émission Dossier bizarre dans des circonstances qui sont bizarres, qui sont pas faciles. Et là, on produit cette émission-là, chacun en confinement, chacun chez soi. Donc, je suis accompagné de Tristan Brunet-Dupont à travers une caméra et par des moyens techniques assez ésotériques pour réussir à enregistrer ça. Bonjour Tristan.
Bonjour Jason, ça va bien?
Ça va très bien toi-même.
Oui, ça va super bien, merci. Effectivement, la qualité sonore sera un peu moins bonne pour les émissions qu'on va faire le prochainement. Mais on est de retour quand même. On va quand même procéder à l'enregistrement des nouveaux épisodes en direct de notre salon. Le confinement oblige. Et là, en ce moment, ben, je suis chez moi, Jason, dans mon salon. Donc, j'ai un chat. Hein, donc, ça se pourrait bien que vous entendez pendant notre podcast un petit chat qui commence à participer à la conversation. Hein, on pourrait entendre miauler pendant le podcast, où vous allez peut-être m'entendre dire « Hey, va-t'en, va-t'en! » Donc, si je dis ça, c'est parce que je suis en train de dire à mon chat de s'en aller et de pas me déranger.
Alors, soyez rassurés, si Tristan dit « Va-t'en, va-t'en », c'est pas à moi qui parle.
Non, et c'est pas à vous, auditeurs. On est bien content de vous retrouver. Moi, justement, là, ça fait un mois et demi là, que je suis chez moi. Et je peux vous dire que j'ai eu le temps de préparer bien des dossiers. Donc, on est reparti avec notre saison, la poursuite de notre deuxième saison.
Tristan, justement, là, on va prendre une petite minute là, pour voir, bon, ben, toi, comment ça se passe, là, justement, là, cette situation-là, qui, je pense qu'on s'est tous fait un peu prendre par surprise par l'ampleur de tout ça. La dernière fois qu'on avait eu un peu peur là, d'une crise mondiale de santé, c'était avec le H1N1, qui, finalement, ça avait été relativement, ça s'était résorbé rapidement. Et en Amérique du Nord, ici, on n'avait pas eu beaucoup d'impact là, avec le H1N1. Je pense que les gens s'attendaient un peu à la même affaire. Et là, finalement, bon, on est coincé. Moi, je fais de la radio chez moi en direct depuis, ça va être ma sixième semaine, là, et je le fais de chez moi avec un studio mobile installé sur la table à manger, de la salle à manger, avec ma fille de 7 ans qui est là. On fait l'école à la maison au travers tout ça. C'est assez incroyable là, comment on s'organise. C'est pas facile tous les jours non plus là, d'avoir un enfant à la maison 24 heures sur 24, pas avoir d'amis, pas socialiser autant comme adulte que les enfants qui peuvent pas socialiser non plus. Mais bon, on s'en tire quand même pas si mal. On est de nature, de toute façon, casanière, pas très social, alors c'est quand même pas majeur pour nous autres. Mais toi, de ton côté, comment tu t'en tires?
Ben, c'est gentil de demander. Je suis content de savoir que ça se passe bien de ton bord aussi, Jason. C'est une situation qui est vraiment particulière. Moi, je l'avoue, je suis très social dans la vie, mais je suis bien tout seul aussi. C'est comme l'un ou l'autre, je m'adapte assez bien et je suis très, très geek. Là. Moi, je suis un fan de jeux vidéo, de films, de science-fiction, de séries. Là, ben, je peux vous dire que j'ai le temps en masse de me gâter à ce niveau-là. Par contre, là, j'avoue que je trouve ça un peu long. Bien honnêtement, là, je me rends compte que la routine, même si des fois c'est épuisant, ça nous garde actifs. Et puis, de travailler quotidiennement, d'avoir une routine là, 5 jours semaine, d'aller à l'épicerie, le gym, le travail, ça crée, genre, je sais pas comment l'expliquer, là, mais on se sent bien quand même. Il fallait que tout arrête pour s'en rendre compte, on dirait.
Oui, absolument.
Moi, je me rends compte que j'aime vraiment ça, être actif, travailler dans la vie. Puis là, ben, ça fait un mois que je suis chez nous, puis je trouve ça long. Je trouve ça vraiment long.
Oui, puis la routine.
Mais ça va bien.
La routine, on voit ça d'une manière négative, mais ça en prend tout le temps un peu. Hein. Il y a des gens qui, présentement, là, qui vivent en pyjama, qui vivent en robe de chambre, qui font la navette entre leur lit, le divan, avec un sac de chips dans une main, une barre de chocolat dans l'autre. On mange de la cochonnerie, puis on fait pas grand-chose. Il y en a d'autres, à l'inverse, qui essaient de garder un semblant de normalité, puis on se lève le matin, mettent le cadran, se lèvent le matin, s'habillent, vont prendre une marche ou vont jogger, puis essaient de garder un horaire ou un semblant d'horaire, mais on est tous un peu dans l'inconnu. Là, on se retrouve dans des situations qu'on n'a jamais vécues avant, puis c'est pas évident à savoir. Ben, il n'y a comme pas de marche à suivre, là, vraiment, là, de comment réagir dans une situation comme ça.
Exactement, non, c'est fou. C'est une pandémie mondiale. Je ne m'attendais pas à ça. Tu m'as posé la question si je m'y attendais. Je m'y attendais pas du tout. Nous autres, on a coupé la moitié de notre personnel à la radio, oui, où on travaille, Jason. La moitié du personnel a été coupée temporairement. Donc, ça paraît, je m'attendais pas à ça. T'sais, en février, fin février, là, moi, je pour vrai, c'est un peu un coup de pelle dans la face, bien honnêtement. Ouais. Là. Mais tu sais, ça va bien. Ça va bien, c'est juste qu'on s'y attendait pas. Personne.
Et voilà. On s'est tous fait. On s'est tous fait prendre un peu.
Alors, est-ce qu'on y va avec Géante?
Oui, ben c'est ça. C'est toi qui vas présenter le sujet aujourd'hui. Alors, c'est moi qui vais être à l'animation, l'accompagnateur, le wingman, l'ailier gauche ou droit, ou peu importe. Et c'est toi qui vas être le centre et qui va nous présenter un sujet. Fait que je te laisse le présenter. Évidemment, il y a tout le temps comme, bon, étant donné qu'on est à distance, il peut y avoir des petits délais une fois de temps en temps. On va essayer de faire attention aussi de ne pas empiéter un sur l'autre. Fait que je te laisse le haut du pavé. Puis de temps en temps, quand je vais voir qu'il y a une possibilité d'entrer, je ferai des commentaires là, au travers de ta présentation.
Oui, c'est bon, ça, parfait. Puis c'est ça, comme tu l'as bien dit, là, ça va sûrement arriver dans les prochains épisodes, effectivement, étant donné qu'on n'est pas en personne en direct dans la même pièce. Attendez-vous, chers auditeurs, que des fois, ça se peut qu'on... Oups, tu sais, Jason va embarquer un peu sur moi, puis là, je vais l'entendre avec un petit délai, donc je vais arrêter de parler. Donc, une petite adaptation à ce niveau-là, mais je pense que ça va bien aller quand même.
On est bon, ça ne durera pas longtemps.
On décolle, allons-y, allons-y. Dossier bizarre qui recommence. J'ai choisi le sujet des illusions. Si je te dis illusion, Jason, c'est assez vague. Qu'est-ce que ça te dit?
Ben, moi, la première affaire que je vais penser quand je pense à illusion, c'est les fameux dessins d'Escher. Je ne sais pas si tu les escaliers, mettons, là, qui finissent jamais, ou le carré, oui. Mais que dans le fond, c'est pas vraiment un carré, puis c'est une ligne continue qui finit jamais, puis ça fait un cube. Ça, pour moi, c'est des illusions. C'est des illusions d'optique. Là. C'est penser pour, bon, la personne dessine quelque chose en voulant justement créer l'illusion que l'escalier se termine jamais. Puis notre cerveau, il y a comme de la misère à interpréter le dessin. Moi, une illusion, le mot m'amène vers ça.
Ben, c'est une excellente analyse parce que, tu l'as dit, une illusion optique. La plupart des illusions, c'est des illusions d'optique. Donc, c'est des illusions qui sont causées par la lumière, par la réfraction de la lumière, par la déviation de la lumière, mais tout part de la lumière. Alors, on va faire un petit cours 101 là, pour se mettre dedans un peu. Ça part de où ces illusions d'optique-là? Eh bien, la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, ça, c'est quand on regarde un objet, ça prend du temps avant que la lumière de l'objet se rende à nos yeux. Et ce temps-là, en fait, c'est vraiment la lumière, là, c'est 300 000 km par seconde. C'est quand même, c'est pas lent, c'est pas la vitesse d'un escargot.
Mais Tristan, justement, on dit que ça prend du temps. Par exemple, là, je suis en train de regarder la lampe que je viens d'allumer. Il y a un temps entre le moment où la lumière quitte la lampe et se rend à mon œil. Mais la vitesse est tellement rapide que c'est imperceptible. Mais c'est pas instantané non plus, parce qu'il y a quand même si tu as 300 000 km à la seconde, il y a quand même un délai entre le moment que la lumière quitte la lampe et sera à mon œil, il y a un délai. C'est pas, nous, on s'en rend pas compte parce que c'est trop rapide, mais c'est pas instantané.
Exactement. C'est captivant. C'est exactement ça. Donc, on pourrait dire, la première illusion qui me vient en tête, Jaden, c'est l'illusion du présent. On a l'impression qu'on voit le présent, alors que tout ce qu'on voit, en fait, c'est le passé. Par exemple, la Lune. Quand on regarde la Lune est située à 300 000 km de la Terre. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde.
Okay.
Donc, ça prend une seconde exactement avant que la lumière de la Lune se rende à la Terre. Donc, on regarde la Lune telle qu'elle était il y a une seconde.
OK. Fait que ça, c'est pas donc, trop loin dans le passé.
Jamais la Lune n'explose.
Ouais. Si elle explose, on va l'avoir une semaine plus tard, une seconde plus tard.
Exactement. Le Soleil. Le Soleil, c'est 8 minutes. Donc, ça prend 8 minutes avant que la lumière du soleil se rende à la Terre. Donc, quand on voit le coucher de soleil, quand on voit le dernier croissant du soleil qui s'en va pour disparaître au loin, eh bien, il est déjà couché depuis 8 minutes. Donc, c'est une sorte d'illusion. Et une autre illusion, quand on dit un coucher de soleil, un lever de soleil, le soleil ne se lève pas et il ne se couche pas. On rappelle que c'est la Terre qui tourne et c'est tout simplement la rotation de la planète Terre qui fait en sorte qu'à tous les jours, on voit le soleil se déplacer dans le ciel, mais c'est pas le soleil qui se lève, ni le soleil qui se couche. Une autre sorte d'illusion. Et le si vous voulez justement j'allais dire séduire votre douce en créant de la poésie, vous pouvez dire veux-tu qu'on regarde le en fait c'est assez cocasse de dire veux-tu qu'on regarde le passé ensemble? Eh bien regardons le coucher de soleil. maintenant, on va y aller avec les étoiles. Là, les étoiles, par contre, là, on change un peu d'illusion. On change un peu de distance, en fait. Parce que les étoiles sont tellement loin qu'on ne parle pas de minutes ni de secondes. Là. On va calculer ça en années-lumière. Donc, le temps que ça prend avant que la lumière d'une étoile se rende à la Terre, ça va prendre des années-lumière. Et une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc, en 365 jours. Ça équivaut, là, à peu près, à 10 milliards de kilomètres.
Donc, 10 milliards de kilomètres.
En fait, non, Jason, écoute, c'est une petite erreur. 10 000 milliards de kilomètres.
Ah, ben voilà. C'est ça. À peine différent. C'est une toute petite erreur mathématique de rien du tout.
Donc, 10 000 milliards de kilomètres, ça, c'est une année-lumière. Et par exemple, l'étoile la plus proche de la Terre, de notre système solaire, c'est l'étoile Proxima Centauri. Et elle se situe à environ 4 années-lumière de la Terre. Donc, on regarde l'étoile Proxima Centauri telle qu'elle était il y a 4 ans. Donc, si jamais cette étoile-là explose, boum! Eh bien, dans 4 ans, on va l'avoir explosée.
C'est quand même particulier, hein, parce que là, on se donne, j'aime ça de la manière que tu l'amènes, parce que ça nous donne une échelle, justement, parce qu'on parle, bon, des illusions, on parle que la lumière elle-même voyage à une certaine vitesse, ce qui permet de créer des illusions, ou qui nous en donne des illusions naturelles, comme on a parlé de la Lune à une seconde, le Soleil à 8 minutes, puis là, on parle de l'étoile la plus proche qui est à 4 années-lumière, donc 4 fois 1000 milliards de kilomètres. C'était quoi déjà l'ordre de grandeur pour une année-lumière?
C'est 4 fois 10 000 milliards de kilomètres.
Tu vois, je suis encore plus petit que... Donc, c'est gigantesque, mais ça fait que, étant donné que la lumière a une vitesse fixe, comme tu l'as expliqué, cette étoile-là, ça disparaît demain matin, on va le savoir juste dans 4 ans.
Exactement. Donc, c'est une sorte... Quand on regarde le ciel, c'est une sorte d'illusion. Quand on a l'impression que les étoiles sont là et qu'on les voit telles qu'elles sont là en ce moment, eh bien, c'est complètement faux parce que par exemple, Andromède, qui est la galaxie la plus près de la nôtre, elle est située à 2,5 millions d'années-lumière de notre galaxie. Donc, peut-être que, on n'a aucune idée, mais peut-être que cette galaxie-là a été engloutie dans un trou noir et est totalement disparue depuis 1 million d'années, puis qu'on la voit, nous autres, puis elle est encore visible dans l'espace. Alors, on peut parler là, de fantômes de notre ciel. Tout ce qu'on regarde dans le ciel, en fait, ça ne pourrait être que des fantômes et qui sait, peut-être qu'ils n'existent plus aujourd'hui.
Ben c'est ça, c'est que notre ciel, peut-être qu'il y a des étoiles qui sont disparues ou des nouvelles étoiles qu'on ne voit pas encore et la distance fait en sorte que c'est tellement, mais tellement énorme que ça peut prendre plusieurs générations avant qu'on apprenne que cette planète-là, pas cette planète, mais plutôt cette étoile-là ou cette galaxie-là a disparu là, et que, bon, effectivement, elle n'existe plus depuis très longtemps, mais on le saura pas.
Exactement, non, c'est très spécial. Donc ça, c'est vraiment les illusions, je dirais, niveau astronomique. Si vous voulez en savoir plus sur les fantômes de notre ciel, je vous recommande fortement l'épisode 4 de la série Cosmos. C'est dans cet épisode que j'ai tiré la plupart de ces informations dont je viens de vous dire. Mais cet épisode-là, c'est une heure, donc avec des images et tout. Pour vrai, je vous le recommande, ça vaut la peine. L'épisode 4 de la série Cosmos.
Intéressant, donc ça nous donne une idée de grandeur.
Exactement. On va se rapprocher maintenant, on va aller sur Terre. On va parler d'une illusion très commune que vous avez tous probablement déjà vue. Le mirage sur la route.
Ben oui!
Quand on est sur la route, là, il fait super chaud. Ça se passe souvent dans le temps d'une canicule. Quand il fait 30 degrés Celsius, et là, on voit une espèce de lac ou de flaque d'eau sur la route au loin. Et quand on approche, elle disparaît. Eh bien, il y a plusieurs... je vous donne quelques hypothèses. Est-ce que c'est la réflexion des rayons lumineux, l'évaporation de la vapeur au sol ou de véritables petits lacs qui s'envolent quand on approche?
Moi, je dirais que c'est un effet de la lumière encore. Ça donne le reflet de la lumière. Probablement avec la température élevée, ça fait que la lumière est réfléchie de manière différente. Et que parce que bon, quand on s'en rapproche, souvent, ce qui est plus impressionnant, c'est quand il y a une voiture qui arrive en sens inverse et qu'on est à une certaine distance l'un de l'autre et qu'il y a ça entre les deux. Des fois, on a l'impression que la voiture n'a pas de roue, qu'elle flotte, par exemple, là, qu'on voit de la lumière en dessous du véhicule ou qu'il y en a deux, hein, comme s'il y avait un reflet par terre avec le véhicule, alors qu'il n'y a rien pour réfléchir l'image de la voiture. Fait que c'est un truc de la lumière, j'imagine, là, qui fait que exactement. La lumière, étant donné que bon, le soleil est très fort, il fait très chaud, il y a probablement un effet quelque part là, qui se fait sur comment la lumière est réfléchie par le sol, parce qu'à l'origine, du bitume, de l'asphalte, ça ne reflète pas d'image. Ce n'est pas un miroir, on ne devrait pas voir un reflet.
Exact.
Mais à une certaine distance, on le voit. Et là, quand on s'en approche, tu l'as dit, ça disparaît.
C'est très bonne analyse, Jason.
Oui, justement vu juste. Je suis content.
Alors, je vous parlais justement du mirage. Tu nous disais que c'était probablement la température. Effectivement, c'est en rapport avec la différence de température au sol et la lumière. En gros, la différence énorme de température entre le bitume au sol, qui peut atteindre 70-80 degrés Celsius, et la température de l'air juste au-dessus, à 1 ou 2 mètres du sol, est énorme. Et cette variation de température crée une déviation des rayons lumineux. Mais je parle d'une déviation graduelle. Donc, les rayons lumineux vont vraiment dévier graduellement sur une longue distance, sur environ 50 mètres, et vont remonter. La température au sol du bitume est tellement chaude que les rayons lumineux ne toucheront même pas le sol. Ils vont dévier graduellement pour remonter vers le ciel. Donc, un mirage, ce que l'on voit, en fait, c'est le ciel. On voit le ciel au sol. Donc, c'est même pas comme... On parle souvent d'une flaque d'eau. En fait, on peut dire qu'on regarde le ciel. Un mirage sur la route, là, qui a de l'air d'une flaque d'eau, là, c'est le ciel. Parce que c'est les rayons lumineux qui n'ont pas le temps de toucher le sol, donc qui passent à travers le ciel et qui dévient graduellement pour remonter. Donc, ça frôle le sol et ça remonte.
Ben, ça expliquerait pourquoi qu'on a l'impression des fois qu'un véhicule qui arrive en sens inverse n'a pas de roue, qu'on voit pas, on voit comme s'il n'y avait rien en dessous, comme s'il flottait dans l'air.
Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Donc,
j'ai appris quelque chose.
Illusion optique.
Ben oui, c'est excellent. C'est cool, ça. Ah!
Non, c'est ça. C'est pas vrai quand j'ai appris ça ce matin aussi. On voit le ciel. C'est le ciel qu'on voit. La fameuse plaque d'eau, en fait. C'est le ciel. C'est fou.
C'est excellent. Ben, Tristan, la question qu'on peut pas s'empêcher de poser, est-ce que c'est exactement le même phénomène? On voit moi, j'écoutais Bugs Bunny, puis il était pris dans le désert, il avait soif, puis il voyait des mirages, là, d'un oasis et des choses comme ça. Est-ce que c'est le même phénomène?
Oui, c'est le même phénomène. Donc, on a l'impression que c'est de la vapeur d'eau hein, qui s'évapore du sol. Puis ça crée un genre de vision embrouillée, tu sais, vraiment à la surface du sol. Ben en fait, c'est vraiment les rayons lumineux qui arrivent de l'espace, de notre soleil, qui rentrent dans notre atmosphère, qui passent dans le ciel, mais qui, juste avant de toucher le sol, vont dévier graduellement. Donc, ça va créer une courbe, mais vraiment une courbe, c'est pas un rebond, là. Les rayons lumineux vont pas rebondir directement. Ils vont vraiment ralentir, courber graduellement et les rayons vont remonter vers le ciel. Donc, c'est le ciel, en fait. Les rayons lumineux, c'est vraiment la projection de l'image du ciel au sol.
Donc, c'est le même phénomène qu'un miroir, finalement. Quand je me regarde dans le miroir, c'est les rayons lumineux qui vont frapper le miroir qui reviennent. Mais dans ce cas-ci, c'est que ça ne va pas frapper le sol, ça va juste retourner, changer de direction, revenir à sa source. Mais au final, la lumière s'en va dans une direction, puis elle change de direction, elle se retourne à sa source. Fait que c'est sensiblement la même chose. C'est la raison pour laquelle on voit un reflet, dans le fond, sur le sol.
Exactement. Il disait que ça prend quand même une grande distance d'à peu près 50 mètres pour que les rayons lumineux aient vraiment le temps de dévier graduellement pour remonter. Donc, c'est pour ça que quand on s'approche, ben là, ça disparaît. Parce que ça prend une distance d'à peu près 50 mètres de long pour que les rayons lumineux dévient graduellement pour remonter. Et je précise, ils ne touchent pas le sol. Donc, tu parlais d'un miroir. Il y a vraiment comme... Il faut faire la distinction que les rayons lumineux, en général, vont toucher la surface et rebondir. Mais là, étant donné que la différence de température, ça fait une courbe, ça courbe les rayons lumineux et ils vont même pas toucher le sol, ils vont comme frôler le sol puis ils vont remonter. Donc, c'est assez, au niveau de la physique optique, ça c'est vraiment vulgarisé dans mes mots, là, c'est un petit peu plus touché que ça, là, mais en gros, ça ressemble pas mal à ça.
Excellent.
Est-ce qu'on est près d'une pause?
Ben, ouais, moi je te dirais, on va prendre une petite pause, on va se donner le temps de reprendre notre souffle et on va y aller là avec la suite de cette premier épisode de version confinée dossier bizarre. Alors on prend quelques secondes et on revient, on va continuer à parler des illusions et de ce qui les cause principalement. Ben, c'est ça, c'est souvent des effets avec la lumière.
Excellent.
Les dossiers bizarres est une présentation de. Pour l'animation de votre prochaine fête d'enfants, pensez à engager Monsieur Banane.
Hey, hey, c'est moi, Monsieur Banane.
Monsieur Banane peut faire des animaux en ballon.
Quoi ça?
C'est une marmotte qui a pas été assez vite pour traverser l'autoroute avec un camion qui l'a écrasé.
Maman, la grosse banane me fait peur!
Monsieur Banane peut... Danser à claquettes.
Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Oh, 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 oh.
Et il peut même raconter des blagues.
C'est une fois, un gars, il rentre dans un bar, puis il met sur la table un tout petit piano, puis un pianiste de 12 pouces.
Avec l'animation de Monsieur Banane, plus jamais une fête d'enfant sera la même.
Je veux plus jamais avoir de fête.
Peux-tu emprunter le téléphone? Faudrait que j'appelle mon agent de probation.
On est de retour à l'émission Dossier Bizarre. Premier épisode depuis un petit bout de temps. Hein? Techniquement, là, on devait trouver une manière de le faire, que ce soit... Bon, c'est peut-être pas aussi agréable qu'à l'habitude. Il y a quand même une variation là, au niveau sonore, mais... On reste quand même relativement bien pour pouvoir faire ou recommencer à faire des épisodes. Alors, on est bien content de vous présenter ça aujourd'hui. Tristan Brunet-Dupont qui nous parle des illusions et on se rend compte principalement les illusions, c'est la lumière qui les provoque.
Oui, exactement. La plupart des illusions, c'est des illusions d'optique. Il y a aussi des illusions sonores.
Oui.
Mais, je veux vraiment aborder les illusions d'optique là, aujourd'hui en rapport avec la lumière et bref, toutes sortes de petites données intéressantes et pertinentes. Que j'ai trouvé sur les illusions. Notre podcast, hein, un dossier bizarre, je trouvais ça assez bizarre, des illusions. Je trouvais que ça pouvait, ça rentrait bien dans notre thématique, là, tu sais, c'est étrange, là, de constater que ce qu'on regarde, ça prend du temps avant que la lumière de l'objet se rende à nos yeux. Donc, la Lune, par exemple, on la regarde telle qu'elle était il y a une seconde. Le Soleil, on le regarde tel qu'il était il y a 8 minutes. Et les étoiles, ça prend des millions d'années-lumière, des fois, avant que la lumière de l'étoile se rende à la Terre. Donc, peut-être que l'étoile n'existe même plus.
Ben non, c'est ça. C'est fou. Là. On regarde peut-être des affaires qui n'existent plus. C'est une manière de voyager dans le temps, dans le fond.
Exactement. Là, j'ai d'autres petites données que j'ai trouvées. Donc, je vais vous parler d'une petite illusion. Là, l'horizon plat. Hein, Jason? Donc, la Terre est plate.
Ah, ben oui, la Terre est plate. C'est de la faute à Bill Gates.
Donc, ça, c'est... Exact. J'ai pas la définition scientifique là au niveau de l'optique, mais on comprend que la Terre est sphérique, mais est tellement grande qu'on ne distingue pas à l'œil la courbe, la fameuse courbe. Par contre, j'ai trouvé dans un documentaire que quand on est sur le large, en bateau, que la qualité de l'air est excellente, donc on peut voir vraiment très très loin. Si on regarde un voilier qui s'en va au loin. Et qu'on le suit avec des jumelles, eh bien, on va pouvoir voir le voilier disparaître. Mais si on regarde la voile, eh bien, on va le voir descendre.
Donc, il disparaît, mais sur le sens de la hauteur. Comme s'il descendait dans un ascenseur, dans le fond. Là.
Exactement. Donc, on peut déjouer cette illusion-là de terre plate. Avec des jumelles sur le large, si on voit un voilier ou un gros bateau qui disparaît au loin, ça prend des jumelles parce qu'à l'œil, on n'est pas capable de voir assez loin. Mais avec des jumelles, là, on peut facilement voir le bateau qui va descendre parce que la Terre est sphérique. Donc, il va tout simplement suivre la courbe, là, puis descendre. Il va disparaître en
L'altitude aussi, l'altitude permet de voir la courbure de la Terre également. Un avion qui circule là, à 20 000, 30 000, 40 000 pieds d'altitude, étant donné qu'elle se distance de la Terre, l'illusion du fait que c'est plat, que la Terre est plate, dans le fond, disparaît tranquillement parce que la courbure de la Terre, étant donné qu'on s'éloigne de la Terre, le fait que c'est vaste devient moins important parce que là, la Terre devient moins près de nous, donc on est moins confiné sur la surface. Et de cette manière-là, la courbure apparaît également là, quand on est en altitude dans un avion, par exemple.
Effectivement. Je n'ai pas assez pris l'avion souvent, je l'avoue. Est-ce que tu l'as déjà vu?
Non, je ne l'ai jamais vu moi-même, mais je sais que ça faisait partie des... Bon, parce que bon, on est adepte tous les deux là, des gens qui émettent des complots des fois qui sont farfelus, et celui de la Terre plate, c'est un des complots les plus connus ou les plus répandus. Alors, je m'étais documenté un peu parce que bon, éventuellement, on va sûrement faire une émission spéciale sur les différents complots qu'on connaît. Et c'était un des arguments sur que les adeptes de la Terre plate ont de la difficulté justement à contrecarrer cet argument-là. Parce que dès qu'on prend de l'altitude, on voit très bien la courbure de la Terre. Et là, ça devient flagrant que la Terre n'est pas plate. Alors là, les explications scientifiques, justement, on parle de réflexion de la lumière, il y en a qui disent que c'est des coups montés, que les appareils sont construits pour donner cette illusion-là. Les fenêtres des avions sont faites comme ça. En tout cas, il y a plein. Mais c'est un des faits scientifiques que les terre-platistes, les adeptes de la Terre plate, ont le plus de difficultés à expliquer pour aller avec leur théorie. C'est que dès qu'on quitte le sol, puis dès qu'on commence à prendre l'altitude un peu, whoop, la courbure commence à apparaître très clairement. Il y a le bateau également, hein, parce que bon, j'en ai vu des documentaires là, pour les gens de la Terre plate. Les gens, bon, ici on est à Havre-Saint-Pierre, juste l'autre côté, pas loin, il y a l'île, la petite île du Havre, qui était peut-être un demi-kilomètre de la berge, et on peut voir Anticosti qui est à plusieurs kilomètres également. Et là, les gens qui sont adeptes de la Terre plate disent « On voit Anticosti. Si la Terre était plate, on ne la verrait pas. » Elle n'est pas encore assez loin, mais on ne voit pas l'entièreté. Probablement que... Il y a une partie de l'île qu'on ne voit pas parce que justement, à cause de la distance, il y a probablement une partie de l'île qui est masquée par la courbure de la Terre. Mais on voit quand même une partie de l'île par journée très, très claire. Là, parce que bon, quand c'est un peu brumeux, on ne la voit pas. Mais quand c'est très clair, on peut voir l'île d'Anticosti qui est quand même relativement loin. Alors, c'est un des arguments, ça. Mais si l'île d'Anticosti, on la faisait s'éloigner tranquillement, ben on verrait qu'elle rapetisserait. Puis à un moment donné, pouf, elle disparaîtrait comme si elle avait été engloutie dans la mer.
Exact. C'est exactement ça. Ah, les platistes!
Ah, je t'ai dit. On les aime parce que ça nous fait des sujets de conversation.
Ben oui. Si vous êtes platistes et vous nous écoutez, là, moi, ça sera toujours un plaisir de vous accueillir.
Absolument.
Et d'aller jaser avec vous en prenant un petit café. Là. Moi, j'aime partager. La différence d'opinion, ça crée des discussions, des conversations, des débats, des idées. C'est le fun. On aime ça.
Ben oui.
Alors, je vais poursuivre avec quelques petites illusions. Des petites illusions, en fait, plusieurs spécialistes. Là, on va redescendre sur Terre, on va y aller plus dans le concret. Il y a plusieurs spécialistes scientifiques, historiens, théologiens, anthropologues, qui expliquent que pratiquement tous les phénomènes de créatures, Bigfoot, dragon, loup-garou, fantôme, etc., sont tout simplement des illusions créées par le fruit de notre imagination. Donc, on voit que les illusions, ça peut aussi être ça, là. Ça peut être... toutes les histoires de créatures, on s'entend qu'avec aussi peut-être un petit coup,
ouais.
Peut-être un peu d'alcool ou des substances.
T'as la pêche.
Les gens peuvent imaginer des choses.
Hein, dans le canot, on avait amené des consommations dans le canot, et puis là, ben oh, à la fin de la journée, quand il a commencé à faire noir, on entendait des drôles de bruits, puis oh, on a vu des drôles d'ombres, et oh, c'était Bigfoot.
Exactement. Donc les illusions peuvent se manifester de cette manière aussi dans l'histoire de l'humanité, tout ce qui est Bigfoot, l'horrible homme des neiges ou tout ça, ça peut être tout simplement des illusions là causées par notre imagination, et imagination qui peut être accentuée par les substances illicites comme l'alcool et les drogues.
Tristan, tu parles des substances. Bon, j'ai dans une autre vie, j'ai été éducateur spécialisé, donc et j'ai été intervenant en toxicomanie ou en dépendance. Et justement, bon, j'ai eu de la formation là-dessus et j'avais un enseignant qui nous avait très bien expliqué parce que bon, quand on est jeune un peu, on n'a pas nécessairement des connaissances scientifiques. On souvent on peut confondre hallucination et illusion. Et il nous avait donné un bon truc pour le savoir. Hallucination, tu vois, t'entends, tu sens, tu goûtes ou tu ressens quelque chose qui n'est pas là. Une illusion, c'est qu'il y a quelque chose, mais ton cerveau l'interprète de la mauvaise manière. Et c'était la distinction entre les deux. Et je trouvais que c'était une belle définition pour une illusion de dire, je vois, un boyau d'arrosage par terre dans le gazon. Je le vois du coin de l'œil pendant que je marche et « Oh, il y a un serpent! » Et c'est un boyau d'arrosage. Oui. C'est une illusion. Mon cerveau a vu quelque chose et là, l'analyse qu'il en a fait n'était pas la bonne. C'est une illusion. Si je m'en vais sur le gazon puis j'ai consommé des substances, des champignons étranges, et que là, je pense qu'il y a un serpent alors qu'il n'y a rien, ça, c'est une hallucination. Alors, c'était la distinction entre les deux. Puis je trouvais que c'était le fun pour l'illusion de l'amener de cette manière-là. C'est il y a bel et bien quelque chose, mais ton cerveau ne l'interprète pas nécessairement de la bonne manière.
Ah, c'est très intéressant, la différence entre les deux, là, hallucination et illusion. C'est clairement quelque chose que, en fait, je l'ignorais. Moi, c'était de la manière que tu l'apportes. C'est intéressant, effectivement. Ça peut être aussi, tu sais, le Loch Ness, le monstre du Loch Ness.
Mm-hmm.
Tu sais, quand on voit, justement, les toutes sortes de débris sur un lac, les photos, les vidéos qui ont été prises, souvent, quand on les analyse, les photos, on dit, ben, en fait, c'était tout simplement des retails, une bûche, n'importe quoi qui flottait. Donc, c'était une illusion dans ce cas-là.
Absolument. Et si vous n'avez pas écouté notre épisode sur le Loch Ness, allez l'écouter parce qu'on a même une conclusion. C'est rare, hein, mais on a une conclusion dans celui-là.
Ouais. Effectivement, puis je vais y aller avec le Kraken aussi, recommander le Kraken.
Oui, le Kraken.
Parce que le Kraken, il y a plusieurs personnes depuis des centaines, même des milliers d'années, qui disent qu'ils ont vu le Kraken. Bon, des fois, ça, c'était peut-être une illusion, hein, peut-être qu'on distinguait mal dans l'eau la créature, et là, on exagérait. Mais finalement, eh bien, on a découvert dernièrement qu'il y a des calmars géants qui existent vraiment, qui peuvent atteindre 10 mètres.
Absolument.
Là, c'était une illusion à moitié vraie.
Ben, c'est ça, c'est peut-être plus la taille ou la proportion qui était exagérée ou qui était mal interprétée, mais il reste qu'il y avait bel et bien des créatures de très grande taille qui pouvaient avoir été vues et c'était bel et bien une réalité, non pas des inventions de pêcheurs, des histoires de pêche.
Exact. Allez l'écouter, hein, Loch Ness et le Kraken, là, deux épisodes pour des créatures marines. On
aime ça, les créatures, nous autres.
Ouais, puis il y en a tellement, hein. Il y en a d'autres. On en a pas fait. Mais je reviens sur les illusions.
Ben oui, absolument, les illusions. Mais ces créatures-là qu'on parle, ben justement, il y a une part d'illusion dans ça. Il y a une part de perception. Il y a une part de. Mettez-vous dans le bois à la noirceur. Je ne sais pas s'il y a des citadins qui nous écoutent, mais il y a des gens aussi qui ont peut-être déjà été dans une forêt loin, très loin de la civilisation, où il n'y a absolument aucune source d'éclairage artificiel. Les bruits prennent une saveur différente, hein? les ombrages, juste la qualité de l'air est différente là, quand on est dans la noirceur absolue, dans le bois. Alors, notre cerveau commence à nous jouer des tours et commence à interpréter les affaires d'une manière complètement différente que si on est en plein centre-ville de Montréal ou de Toronto ou de Paris ou peu importe. Là, c'est pas tout à fait la même affaire.
Ah non, c'est une histoire personnelle. Là. Il y a deux jours, Jason, j'en ai eu une illusion. Je suis allé jouer à l'église. J'ai le droit d'aller jouer du piano à l'église. J'ai l'autorisation d'aller jouer du piano à l'église. Là, je suis allé à la noirceur. J'avais comme allumé juste la lumière au-dessus du piano. Et là, quand j'ai fini de jouer, j'ai fermé la lumière. Après, il faisait noir total dans l'église. Il fallait que je sorte, que je barre les portes. Et là, je peux vous l'avouer, là, j'ai vu à un moment donné une ombre passer à ma droite. J'ai fait le saut. C'était complètement mon imagination. Ouais. C'était vraiment à 100% mon imagination. J'étais comme, mais voyons, je vois des fantômes, ça n'a pas d'allure. Alors que j'étais habitué à l'éclairage, la lumière qui éclairait le piano. Là, en fermant la lumière, ben là, je sentais que mes yeux étaient un peu troublés par cette obscurité. Donc, j'ai imaginé une ombre passer à ma droite. Là, pendant une seconde, j'ai fait, un fantôme. Tout de suite après, j'ai réalisé que c'était une illusion.
Eh oui, absolument. Alors, c'est très intéressant. Hein? Ça nous amène dans d'un côté plus scientifique qu'on touche rarement là, dans l'émission. Souvent, bon, c'est un peu plus farfelu ou un peu plus paranormal, mais c'est très intéressant de voir à quel point la manière qu'on capte la lumière, la manière que notre œil l'aperçoit, comment notre cerveau l'interprète. Et souvent, c'est nos références aussi. Hein? Si moi, je crois aux fantômes, je vais avoir bien plus tendance à en voir un fantôme quand je vois une illusion que l'autre personne à côté de moi qui, lui, croit aux extraterrestres. Ben lui, il va peut-être faire un lien avec un pour le même événement. Lui, il va faire le lien avec l'extraterrestre. Puis l'autre, au bout, qui croit à rien de ça pantoute, va aller ouvrir le frigo pour aller chercher la bouteille qu'il voulait. Puis il ne sera pas dérangé par ce qui s'est passé. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi notre culture personnelle qui va venir teinter ces fameuses illusions-là.
Exactement, non, c'est intéressant. Moi, tu vois, toute ma jeunesse, là, j'étais quelqu'un, un petit gars très, très imaginatif, puis j'ai eu peur de plein d'affaires. Moi, j'avais peur du noir, j'avais peur des monstres imaginaires. Là, en vieillissant, je suis un fan de science, puis en fait, de faire de la recherche sur les illusions, ça me rend un peu plus pragmatique, tu sais, qu'on se rend compte que, justement, c'est la plupart du temps, presque tout le temps, en fait, là, ce genre de situation, c'est causé par des illusions. Il y a les magiciens qui en profitent beaucoup de ça.
Ah, hein,
ils utilisent les illusions d'optique pour créer leur tour et tromper l'œil humain. Je vais en glisser un mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour faire des carrières complètes.
Absolument. Il y en a qui sont très bons. Hein. Il y en a, c'est hallucinant. Là, on voit avec l'ère numérique hein, puis Internet, il y a des magiciens qui font des tours en utilisant Internet d'une manière absolument originale. Mais encore là, c'est qu'on trompe le cerveau humain. Là. On attire l'attention d'un côté alors qu'il se passe de quoi de l'autre, mais qu'on ne verra pas parce que automatiquement on est attiré par quelque chose. Notre œil est attiré par un mouvement. Il s'en passe un autre tellement rapide que notre cerveau ne l'enregistre pas. Mais là, on utilise des nouveaux moyens, encore plus dans le cas présent où on est confiné. Là, on voit plein d'artistes qui font des spectacles virtuels, mais il y a des magiciens qui le font aussi, qui viennent avec Internet, réussissent à tromper les gens. Alors même si je peux mettre la vidéo sur pause, je peux le reculer, le regarder 15 fois, regardez la même séquence de 2 secondes, ils réussissent quand même à me tromper. Ça veut dire que ces gens-là ont justement une conscience de comment utiliser l'illusion d'une manière absolument incroyable, qui réussissent à nous tromper à chaque fois.
Ah, c'est vrai. J'aime bien Luc Langevin, là, parce que tout le monde le connaît. Là. Mais allez voir ses vidéos, c'est incroyable. Il utilise très bien les illusions d'optique, justement. Tout ce qui est physique optique, c'est un génie dans ce domaine.
Absolument.
Je voulais glisser un mot sur les illusions, l'illusion mémorielle, le fameux déjà-vu, le déjà-vu.
Oui!
Comme ils disent. Je voulais glisser un mot parce que il y a plusieurs théories. À ce qui paraît, bon, selon certains scientifiques, c'est prouvé. Selon d'autres, c'est pas encore prouvé. Parce que, bon, la première théorie, c'est que c'est un souvenir, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu et qu'on refait sans s'en rendre compte. Et que là, notre cerveau, fait comme « Wow, attends, j'ai déjà vu ça, moi, là, j'ai déjà vu ça. » Mais il se rappelle plus d'avoir fait ça.
Ouais.
Donc, on a l'impression que, comme si on avait fait un rêve prémonitoire, on le sait pas trop, c'est comme s'il y avait un bug dans la réalité.
Ouais, c'est comme si on revivait le même événement, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est notre cerveau qui l'interprète, encore une fois, de cette manière-là.
C'est ça, en gros, c'est une illusion mémorielle. C'est un mélange de souvenirs qu'on a dans notre tête, puis que ça m'est arrivé dernièrement, là, en confinement à 30. Après 30 jours à faire un peu tout le temps la même chose à tous les jours, il y a comme 2 jours, j'étais arrivé dans mon appart, là, j'ai fait de quoi de banal, je pense déplacer une chaise, là, j'étais comme, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, mais je me rappelle pas d'avoir déjà fait ça. Puis là, je capotais, puis là, j'étais comme, ah, c'est clair que ça fait 30 jours que je fais la même affaire à tous les jours. je commence à devenir fou, là, ça y est.
Mais quand ça nous arrive, on a comme un petit 5-10 secondes quand même assez presque paniquant. Là. Comme, voyons, il se passe de quoi? Qu'est-ce? Puis, ben, voyons, comment ça, ce feeling-là? Puis c'est un sentiment quasiment étouffant qu'on a. Ça ne dure pas longtemps, puis ça s'en va. Puis souvent, même, peu importe là, qu'on se raisonne ou non, on dirait que notre cerveau l'efface rapidement aussi. C'est comme si ça vient d'arriver, puis c'est très intense pendant quelques secondes, puis après ça, pouf, c'est un peu comme un rêve. Hein, quand on se réveille, c'est comme, hey, je faisais un rêve, là, puis oh, je m'en souviens plus. Puis on passe à d'autres choses. C'est un peu le même sentiment qu'on a quand ça arrive.
Ah, c'est vrai, c'est assez spécial ce que ça fait comme effet, là, comme ressenti. Là. C'est vrai que c'est vraiment spécial. Je voulais en glisser un mot parce que c'est une sorte d'illusion, une illusion mémorielle qu'on appelle.
Oui.
Je vais y aller avec le dernier point, Jason.
Oui, vas-y, mon cher.
Je me gâte là aujourd'hui. Ah. Là, je voulais vous glisser un mot des trous noirs.
Les fameux trous noirs qu'on a réussi à faire une photo en 2019 pour la première fois. Une véritable photo d'un trou noir. Une jeune scientifique qui était à la tête d'une équipe là, qui a réussi l'improbable, réussir à... Bon, c'est pas une photo, là, le trou noir, il fait pas un selfie en souriant, là, mais on a une meilleure idée de concrètement... Comment s'est bâti un trou noir? Ça ressemble à l'anneau du Seigneur des Anneaux, à l'œil de Sauron, là, la photo, là, si vous l'avez vu circuler. Mais ça reste que c'est quand même la première représentation réelle d'un trou noir qu'on a réussi à avoir là, dans, depuis que bon, les théories ont été avancées. Stephen Hawking, qui a été un des plus grands là, scientifiques à étudier le phénomène, mais on n'en avait jamais photographié ou vu. On n'avait jamais pu prouver hors de tout doute l'existence des trous noirs. Et là, c'est chose faite avec cette fameuse équipe qui a réussi l'improbable.
Effectivement, dans l'actualité, c'est intéressant. Aller la voir, la photo, là, c'est vraiment fou. J'ai essayé de fouiller, Jason, j'essaie de trouver une phrase de comment décrire un trou noir. Je fouillais, j'étais genre, c'est bien trop compliqué, je réussirai jamais. Je pense que j'ai réussi à créer une phrase qui vulgarise très bien. Alors, un trou noir, c'est quoi? C'est une gigantesque étoile qui implose, donc qui s'effondre, et la force de gravité qu'elle créait se compacte à un tel point qu'un trou noir se forme.
Et pourquoi on appelle ça un trou noir?
Parce que tout y est absorbé,
et voilà,
y compris la lumière.
Et voilà, donc ce qui permettait de détecter des trous noirs sans pouvoir prouver qu'ils étaient bel et bien là, c'était justement les variations qui se faisaient autour, au niveau de la lumière, puis bon, des différentes ondes, les longueurs d'onde, parce qu'il n'y a pas juste la lumière là, dans l'espace, là, mais on mesurait les longueurs d'onde, et quand on voyait certains types de variations, ben on disait « Oh, il y a un trou noir dans ce coin-là et il absorbe non seulement la matière, mais en plus les ondes, la lumière, tout. » Parce que la lumière, c'est quand même, on ne peut pas y toucher, mais ça reste quand même, c'est des particules qui circulent, là. Il y a quand même quelque chose là,
oui.
Et le trou noir est tellement dense que la lumière ne peut pas s'en échapper.
Ah non, c'est exactement ça, la fameuse spirale de matière qui tourne autour du trou noir. Est tellement compacté par la gravité si intense qu'il y a une chaleur qui émerge. Et là, c'est pour ça que c'est la matière qui tourne autour du trou noir, c'est visible. C'est comme ça qu'on peut voir les trous noirs dans l'espace. Comme c'est une bonne description que tu fais. Je voulais en parler, Jason, parce que on peut parler d'une illusion un peu, ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'en gros, on sait pas encore c'est quoi qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Il y a toutes sortes de théories. Tout peut être possible, mais j'ai sorti quelques petites théories pour finir. On parle d'illusion, en gros, parce que notre réalité pourrait être une complète illusion. le trou noir, si on va dans le trou noir, ça pourrait être une sorte de portail vers un autre univers. Donc, il y a cette théorie-là. Le fameux voyage dans le temps, parce qu'on dit que le temps et l'espace est complètement déformé à l'intérieur du trou noir.
Ben, c'est ça.
Le temps aussi.
Exactement.
Donc, le temps pourrait être complètement différent. Si on rentre dans le trou noir, là, on pourrait sortir soit dans le passé ou le futur, ailleurs dans l'univers ou même dans un autre univers. Donc, on peut en arriver au point du Big Bang. Je rappelle que le Big Bang, c'est une théorie. C'est la théorie la plus crédible de l'émergence de notre univers. Mais il y a aussi le trou noir, qui est par plusieurs théoriciens, là, physiciens. Le trou noir, en gros, c'est une autre explication de la création de notre univers. Peut-être que nous, notre univers, on vient d'un trou noir qui date d'avant le Big Bang. Puis peut-être qu'en fait, le Big Bang, ça date d'il y a 14 milliards d'années, mais peut-être que le trou noir, en gros, peut-être que ça fait des centaines de milliards d'années que notre univers ne fait que tomber dans un trou noir, puis ressortir, bref, il y a de quoi virer fou.
Ben, c'est ça, c'est que c'est tellement, on peut tellement extrapoler à propos de ça, parce qu'on le sait pas, ça reste de l'inconnu, hein, c'est, bon, comme avant les explorateurs traversent l'océan, c'était inconnu, on avait peur que la Terre soit plate, justement, qu'on tombe en bas, il y a tellement de théories possibles, et pour l'instant, comme bien des émissions qu'on fait, on peut pas prouver qu'est-ce que c'est, on peut pas dire oui, mais c'est ça, il reste toujours une porte ouverte sur à peu près toutes les théories possibles et imaginables. Tu parlais de pragmatique tantôt, j'avais un prof d'astronomie où il était plate, il était vraiment, vraiment plate, il était pragmatique comme ça se peut pas, il disait un trou noir là, ben, ça absorbe tout, puis ça effoie, paf, fini, ne peut. C'est le trou noir, il va tout détruire. Il n'y a plus rien, là, ça ne ressortira pas à l'autre bout. Puis c'est une petite boule, tellement dense, elle aspire tout, puis tu vas fesser sa boule, puis tu vas exploser, tu vas être mort, tu n'as plus. C'est fini. Et lui, c'était ça, sa théorie. Puis quand tu regardes les faits, ça se tient aussi autant que n'importe quelle autre théorie.
Ouais,
alors,
ouais.
On le sait pas, on peut pas rien dire, mais c'est très mystérieux, justement, le trou noir et l'espace de la noirceur ou l'espèce de l'impact, l'aura qu'il y a autour du trou noir. C'est gigantesque, là, puis ça fait peur en même temps, parce que c'est des mangeurs de galaxies, ça, là. Ça peut tout détruire sur son passage.
Exactement.
C'est très impressionnant.
Ah, ça, je voulais en glisser un mot, parce que, ben là, je voulais finir avec l'idée que En gros, tout pourrait être une illusion. Hein. On peut penser à la Matrix. Hein. Peut-être qu'en ce moment, notre réalité, c'est un programme et que les machines gouvernent le monde dans un futur apocalyptique.
Oui. Et là, il y a eu un problème informatique, un virus qui s'est inséré, puis là, on est pris chez nous à cause de ça.
Exactement. Les illusions, c'était mon dossier d'aujourd'hui, de notre épisode. Les illusions, j'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar.
Ben non, j'espère. Puis j'espère que vous êtes contents également là, de nous retrouver. En tout cas, nous, on est contents de vous retrouver et de pouvoir recommencer. Alors, on peut pas dire combien on va en faire, on peut pas dire comment ça va virer tout ça. Évidemment, étant donné que là, d'un point de vue technique, on est quand même relativement bien installé. On va essayer d'en faire le plus possible dans un relativement court laps de temps pour au moins avoir du matériel là, à vous présenter. Je le sais, les gens cherchent du divertissement. Là, c'est incroyable la quantité de fans qui m'ont contacté pour dire « Ben ouais, ben là, moi, je suis pris chez nous, là, puis je peux pas écouter votre émission, je les ai toutes vues. » Ben là, on va en avoir des nouveaux. Fait qu'on va essayer de vous en fournir un peu de divertissement là, comme ça, de qualité, comme on a fait dans le passé. Et on vous remercie d'être là, puis on vous remercie d'avoir été patient également hein, durant ce mois et demi-là, à peu près, là, qu'il n'y a pas eu d'épisode. Merci d'avoir été là, puis d'avoir été patient et de nous avoir suivis malgré tout. Et je sais que vous allez être là pour écouter les nouveaux épisodes en très grand nombre.
Oui, vraiment, très content d'être de retour aussi pour ma part, Jason. Là, je suis vraiment primé. je suis full content. J'ai plein d'idées de sujets. Là. On en a des sujets en masse. Vous avez des idées de sujets? Écrivez-nous sur notre page Facebook, Dossier Bizarre, au pluriel, sur Facebook.
Et voilà, alors ça nous fait plaisir d'être là, ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre dans la mesure du possible également. Alors, merci d'être là, restez chez vous, restez prudents, soignez votre santé, assurez-vous de ne pas vous mettre à risque et installez-vous confortablement pour écouter Dossier Bizarre.
Yeah!
Hey, merci Tristan!
Prenez soin de vous!
Bye-bye, à la semaine prochaine!
Ça fait plaisir!
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Les lutins élégants.
Aux lutins élégants, on accueille Daniela, notre nouvelle coiffeuse esthéticienne, qui s'occupe de ton cheveu et de ton poil.
Je coupe vos cheveux en écoutant Peppa Pig et la Parc Patrouille.
C'est magnifique.
Les lutins élégants.